franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Marc Bloch.
Il apparaît maintenant, et même de plus en plus, comme le grand historien du siècle. C'est un peu le Galilée de la discipline historique.
Il est né en 1886, mais il reste le plus jeune de nos historiens. Il est vrai qu'il disait « Si seules les choses du passé vous conviennent, faites donc antiquaire. Mais si c'est le présent qui vous passionne, vous pourrez devenir historien. » Avec son complice, Lucien Febvre, on aurait pu les surnommer Castor et Pollux, il avait créé une revue considérable, Les Annales, où dans les années 30, on inventait des sujets originaux, l'histoire de la monnaie, des routes, des chemins, des sentiments, etc., et où on affrontait aussi ceux de l'heure, la Grande Dépression, le nazisme. À 53 ans, Marc Bloch aimait aussi à se présenter comme le plus vieux capitaine de la drôle de guerre. En 1943, il devint dans la région de Lyon le doyen des organisateurs de la résistance. C'était le même qui enseignait l'histoire à l'université et qui, au front, obéissait à l'appel profond de tout ce que notre histoire remuait en lui. C'était le même qui, en pleine déroute, en juin 40, prenait le temps de répondre à la question de son fils « Dis papa, à quoi ça sert l'histoire ?» et qui, au printemps 44, fit face à ceux qui l'abattirent le 16 juin, 10 jours après le débarquement. Demain, après-demain, et puis encore le jour suivant, à Rouen et à Val-de-Reuil, un colloque est consacré à Marc Bloch. Val-de-Reuil, c'est une ville nouvelle de Normandie où le lycée a été baptisé Marc Bloch. C'est une initiative des professeurs de ce lycée que ce colloque auquel participe notre invité, François-Olivier Toiti. Bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Comment je vous présente Marc Bloch? On hésitait à le présenter. Médiéviste, spécialiste du Moyen-Âge, ou bien historien ?
Historien, tout simplement, pour s'affranchir de toute limite de perspective, de champ d'observation.
Pour s'affranchir de toute frontière, Marc Bloch, on le verra, était un Européen. Vous avez consacré à la boutique de l'histoire, il y a quelques années, un livre à Marc Bloch et l'Angleterre. Je vous propose qu'on commence par un texte que vous connaissez bien, François-Olivier Toiti, c'est celui de 1941, qu'on appelle le testament de Marc Bloch. Il en avait rédigé un premier pendant sa participation à la Grande Guerre en 1915. Celui-ci a été écrit à un moment où Marc Bloch bénéficiait d'une dérogation exceptionnelle au statut des Juifs de 40, mais il sentait la persécution qui rôdait et la mort qui se profilait.
Je n'ai point demandé que sur ma tombe fussent récitées les prières hébraïques, dont les cadences, pourtant, accompagnèrent vers leur dernier repos tant de mes ancêtres et mon père lui-même. Je me suis, toute ma vie durant, efforcé de mon mieux vers une sincérité totale de l'expression et de l'esprit. C'est pourquoi il m'était impossible d'admettre qu'en cette heure des suprêmes adieux, où tout homme a pour devoir de se résumer soi-même, aucun appel fut fait en mon nom aux effusions d'une orthodoxie dont je ne reconnais point le credo. Mais il me serait plus odieux encore que dans cet acte de probité, personne pût rien voir qui ressemblât à un lâche reniement. J'affirme donc, s'il le faut, face à la mort, que je suis né juif, que je n'ai jamais songé à m'en défendre ni trouvé aucun motif d'être tenté de le faire. Étranger à tout formalisme confessionnel comme à toute solidarité prétendument raciale, je me suis senti, durant ma vie entière, avant tout et très simplement français.
Lecture par Pierre Lafond, 1941. Je suis né juif, je me suis senti ma vie entière et d'abord français.
Oui, juif s'il le faut. C'est une façon de rompre avec toute distinction raciale, quelle qu'elle soit. C'est qu'on peut aller jusque-là par fraternité avec l'ensemble des Français. En effet, Marc Bloch est le fils de Gustave Bloch, qui était lui-même un professeur très important, un spécialiste d'antiquité, de l'histoire de romaine, qui avait été professeur à Lyon, puis professeur à l'École normale supérieure, et lui-même, Marc Bloch, petit-fils d'instituteur, originaire d'Alsace, de tous ces Alsaciens, pas seulement juifs, mais Alsaciens qui, après le désastre de 70, ont été qualifiés d'optants. C'est-à-dire qu'ils avaient choisi de quitter l'Alsace. Hein, on peut citer les C, on peut citer les Reynards, on peut citer donc les Blocs, et ils font partie de cette élite qui est arrivée et qui a eu, je dirais, à cœur de devenir, j'allais presque dire, d'une certaine manière, peut-être les meilleurs Français possibles.
Les meilleurs Français possibles, mais européens aussi. Marc Bloch, il a dit que l'Europe, c'était un peu une invention de son époque peut-être préférée. Le Moyen-Âge, qui avait séparé l'Europe du monde méditerranéen, il avait imaginé au Collège de France, où il a été récusé deux fois, et sa judéité n'était pas étrangère à ses refus, une chaire d'histoire comparée des sociétés européennes.
Oui, c'est une tendance qu'on a peut-être un peu oubliée, c'est-à-dire que à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, dans les milieux académiques ou au cours des études, il était d'usage de faire d'abord déjà le voyage en Allemagne. Alors, ça succède à la tradition plus classique du voyage en Italie, pour les artistes par exemple, mais ce voyage en Allemagne, on était fasciné par l'Allemagne dans la mesure où on avait analysé en particulier les causes du désastre de 1870 comme une défaite intellectuelle. Et l'idée, c'était d'aller puiser aux sources le meilleur de ce que l'Allemagne pouvait offrir pour reconstituer, en quelque sorte, le terreau intellectuel, savant, culturel.
Son premier voyage en Allemagne, c'est 1909. Après, il va suivre les publications allemandes avec la plus grande conscience. Oui. Et l'autre pôle, il y va d'ailleurs avant d'aller en Allemagne, c'est l'Angleterre.
Oui, c'est l'Angleterre, 1904. Avant de rentrer à l'École normale supérieure, il découvre l'Angleterre, puis il y retournera à trois reprises. On aura l'occasion d'en reparler parce que ses sujets d'études l'ont aussi mobilisé vers l'Angleterre. Mais je peux préciser pour ce qui concerne l'Allemagne, on l'a souvent, accusé d'être, ou plutôt on lui a souvent prêté le fait d'être un passeur de la science allemande. Or, il s'est plutôt considéré, compte tenu de la production allemande dans l'entre-deux-guerres, qui commençait à tourner assez mal, il s'est plutôt considéré, je crois, comme la ligne Maginot. Hein, c'est-à-dire qu'il a fait des centaines et des centaines de comptes rendus d'ouvrages allemands, bien sûr, mais toujours pour dénoncer les tendances néfastes, hasardeux, pan-germanistes, etc. Alors qu'au contraire, sa prédilection pour l'Angleterre constituait une espèce de havre de paix, de repos, d'admiration constante.
Un petit peu de latin maintenant, dilexit veritatem. Dans son testament de 41, on n'a pas entendu cet extrait, il dit qu'il aimerait bien que cette devise figure sur sa tombe.
Il a choisi la vérité. C'est une devise qu'il emprunte à Renan, qu'il avait lui-même utilisé sous une autre forme et qu'il va lui-même, Marc Bloch, décliner dans son ex-libris. Son ex-libris représentant un presseur, un fouleur de raisins dans le pressoir et sous ce pressoir, donc une sorte de pressoir mystique pour presser et extraire la sève de la vie, eh bien, il a choisi la formule « veritas vinum veritatis », c'est-à-dire la vérité et la sève de la vie.
La vérité, c'est aussi l'exactitude. Et d'abord, pour un historien, on l'a dit, c'est le fondateur de la nouvelle histoire, mais il utilisait les méthodes anciennes de l'édition critique, de la critique des textes, avec le plus grand sérieux.
Écoutez, je crois qu'il maîtrisait complètement le domaine. C'est un peu comme, si vous voulez, Picasso, qui était tout aussi capable de faire de la peinture comme Ingres la faisait. Il maîtrisait complètement les classiques. Et c'est justement cette maîtrise absolue qui lui a permis d'en dépasser la création pour faire preuve de nouvelles découvertes.
On critique souvent les intellectuels en France parce qu'ils parlent de beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas dans le détail. Lui, c'était un savant.
Oui, c'était un savant parce que cette quête de vérité était une exigence morale. Vous savez, c'est très intéressant, dès le 14 juillet 1914, justement, après l'attentat de Sarajevo, la déclaration de guerre, il fait un discours qui s'appelle « Critique du témoignage et critique de l'histoire ». Qu'est-ce que c'est que ce discours qu'il fait aux élèves lors de la remise des prix au lycée d'Amiens où il est en poste ? Eh bien, c'est pour montrer à quel point les règles rigoureuses, strictes de la critique sont à la fois des règles normalement scientifiques qui doivent être appliquées à l'histoire, mais également et surtout à l'exercice de toutes les fonctions du citoyen, tout simplement.
Alors après ce discours, 4 ans de guerre, il est exposé au front presque tout du long de la Grande Guerre. 4 citations. Il a eu peu d'années, au fond, pour travailler ses ouvrages. Je vous propose qu'on en retienne 2. Et le premier, ce serait « La société féodale », qui paraît en 2 volumes, à l'aube de la Seconde Guerre.
À la chute de l'Empire romain, l'Europe tomba dans le chaos. Partout, la force faisait loi. Les gens commencèrent à se tourner vers les hommes les plus forts pour leur demander protection et se soumire comme serfs à ceux qui avaient les moyens de guerroyer et qui avaient été formés pour le combat. Les plus anciennes chroniques nous apprennent qu'au début du Moyen Âge, les chevaliers étaient des hommes ignorants et cruels. Dans l'Europe féodale, un statut de la chevalerie s'ébaucha, fondé sur l'honneur et le respect des lois de l'Église. Bien que ce code ne fût pas toujours intégralement respecté, il resta cependant l'idéal auquel tout chevalier aspirait.
Un film pédagogique d'André Tadier, on reconnaît le bruiteur qui imite le sabot du cheval. C'est pour vous rappeler vos années de professeur de lycée François-Olivier Toiti. Sauf dans les illustrations de la première édition de La Société féodale, il n'y a pas de portrait du seigneur en pied. On reprochait d'ailleurs parfois à Bloch de s'intéresser davantage aux permanences, aux invariants, aux infrastructures, qu'aux individus acteurs.
Oui, ce qui intéresse Marc Bloch, c'est la société. C'est les grands mouvements de fond qui ont pu caractériser l'évolution des sociétés. Hein, il ne s'agit pas du passé même, hein, vous introduisiez en disant l'historien et le présent. C'est la société dans ses rapports entre les individus, entre les groupes, les éléments de leur survie, les éléments premiers de leur survie, les conditions matérielles, les conditions d'évolution, de production, le caractère économique, l'agriculture, les échanges,
les inventions, le commerce, dans l'agriculture.
Par exemple, les techniques, les nouvelles formes d'exploitation du sol, les paysages. C'est une histoire structurelle, comme on peut l'appeler depuis. Du reste, Marc Bloch, c'était un mot un peu nouveau dans son emploi à ce moment-là, sacrifie dans l'introduction à La société féodale en disant « Allons-y pour structural ». C'est l'histoire des mouvements de fond. Ces mouvements qui sont lents et qui, évidemment, justifient qu'on ne puisse s'arrêter au Moyen-Âge, mais qui se prolongent bien au-delà. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous promenez dans la campagne française, vous observez des régions bocagères avec des haies, vous observez des régions à champs ouverts, la Beauce, par exemple. Comment l'expliquer, ça ? C'est pas en un jour, c'est pas un événement réduit à une saison qui peut avoir façonné cette structure qui nous environne et qui nous façonne, qui nous fait.
Les caractères originaux du paysage. Mais il abordait aussi des sujets que ses confrères considéraient comme un peu bizarres. Il aimait beaucoup voyager, il recommandait aux historiens d'entrer dans les églises. Et alors quand on entre dans les églises ?
Si la porte de l'église d'Iville, petite commune de l'Eure, n'est jamais fermée, c'est que les visiteurs sont nombreux. Toute l'année, chaque jour, on vient y prier. Les 22 saints que compte l'église ne chôment pas. Tous ont un pouvoir réputé miraculeux. Ils guérissent et chacun a sa spécialité. Saint Gilles protège les enfants. Saint Lieufort, lui, combat les fièvres. Saint Laurent guérit de l'eczéma. Notre-Dame des Nerfs est également très sollicitée. Elle guérit de la dépression, apaise la douleur.
Je suis venue voir Notre-Dame des Nerfs pour mon mari qui est malade.
Vous déposez régulièrement un petit ruban ?
Un petit ruban, j'en dépose un et j'en reprends un que mon mari porte sur lui.
Les saints thaumaturges d'Iville sont les gardiens de ces traditions de croyance, témoins silencieux et indémodables.
Alors voilà, reportage de France 3, 97, que dès les années 20, notre ami Bloch s'intéresse à Saint-Martin parce que c'est un culte national, mais il va s'intéresser au culte des rois et aux pratiques des rois
thaumaturges, les rois thaumaturges.
Bah, les rois thaumaturges, c'est l'histoire d'une croyance en réalité. C'est ça qui intéresse Marc Bloch dans la foulée de la sociologie naissante ou se développant avec Durkheim, Mauss, dans les années 1880-90 et évidemment par la suite. Ce qui l'intéresse, c'est l'histoire de la pratique ou de la croyance que l'on a que les rois de France, tout d'abord, ont de guérir cette affection bénigne qui est en fait une forme dégénérée de la tuberculose et qui donne un ganglion, mais des rémissions qui va, qui vient, qui donc qui peut accréditer l'existence du miracle.
Les écrouelles.
Voilà, les écrouelles. La coutume, en effet, veut que, au moins depuis le XIe siècle, mais Marc Bloch en a cherché des racines plus anciennes, au moins depuis le XIe siècle, eh bien, le roi de France pratique, au sortir du sacre, le toucher des malades qui viennent le voir en espérant être guéris. Alors cela consacre évidemment le corps sacré du roi, hein, qui est un personnage un peu qui est sacralisé, sacré par le sacre bien sûr, mais qui est vu dans la société à la fois, je dirais, comme un homme, comme un chef guerrier, politique, mais également un peu homme, à la limite d'être un homme d'église. Hein, il est le lieutenant de Dieu sur terre. Donc il est l'intercesseur par lequel le miracle peut se produire. Alors ce qui a intéressé également Marc Bloch, c'est la comparaison de cette pratique avec également une rivalité qui s'est fait jour en Angleterre. Hein, le rapport entre l'Angleterre et la France joue aussi, puisque les Anglais ont à leur tour prétendu pouvoir avoir des rois qui guérissaient les écrouelles.
Donc toujours la comparaison entre les nations. J'allais dire entre les civilisations, mais ils ne considéraient pas qu'il y avait des civilisations supérieures. Et puis, cette habitude d'aller par les sentiers détournés qui peuvent mener loin, et avec de l'anecdote au meilleur sens du terme, on peut faire de l'histoire. Mais l'événement survient.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Marc Bloch, historien et aussi citoyen engagé. François-Olivier Toiti, vous participez à un colloque qui a lieu à Rouen et à Val-de-Reuil. Il y a un lycée Marc Bloch à Val-de-Reuil dans les jours qui viennent. Vous avez publié Marc Bloch et l'Angleterre à la boutique historique. L'événement, c'est Munich qu'il conteste. L'événement, c'est la déclaration de guerre. À 53 ans, Marc Bloch, avec ses lunettes cerclées d'intellectuel, se présente. Il est engagé de nouveau, le plus vieux capitaine de la drôle de guerre.
Vous l'avez dit, il est français, vous avez lu son testament et il est engagé depuis la Première Guerre mondiale. Et là, la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas un pli. Les annales ont publié, entre les deux guerres, les premiers articles au monde analysant l'avènement du nazisme. Et dès 1940, d'abord il participe à la défaite, au désastre de mai 40, nous laissant ce témoignage incroyable.
Qui s'appelle l'étrange défaite.
Qui a été appelé ultérieurement l'étrange défaite.
Mais qui est devenu un grand classique voilà, depuis les classique. Années 90, qui a été publié à titre posthume et qui est un livre décomposé en plusieurs parties. C'est un livre extraordinaire.
C'est un livre qui est un témoignage immédiat en réalité et qui est d'une lucidité sidérante. À la fois sur les causes de la défaite, sur sa propre existence et son parcours dans cette défaite. Ça commence par, évidemment, d'abord la déposition d'un vaincu, puis l'examen de conscience d'un Français. Permet de voir les causes profondes, là encore, non pas attribuer la défaite à tel ou tel individu, mais c'est une défaite collective dont il essaye de voir les racines profondes entre les deux guerres, notamment...
Défaite des élites
défaite
aussi,
des élites,
au-delà des erreurs de commandement de quelques chefs. Je vous propose qu'on écoute un extrait, lu par Alain Lippolt, France Culture 2010, de cette étrange défaite.
Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France. Ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Leur imperméabilité au plus beau jaillissement de l'enthousiasme collectif suffit à les condamner. De plus en plus loin du peuple dont elles renonçaient à pénétrer pour sympathiser avec eux les authentiques mouvements d'âme, tour à tour refusant de le prendre au sérieux ou tremblant devant lui, la bourgeoisie s'écartait, sans le vouloir, de la France tout court. Une grande partie de nos classes encore dirigeantes, celles qui nous fournissent nos chefs d'industrie, nos principaux administrateurs, la plupart de nos officiers de réserve, sont partis en guerre, toutes pleines de cette hantise. Ils recevaient les ordres d'un système politique qui leur semblait corrompu jusqu'au moelle. Ils défendaient un pays qu'ils jugeaient d'avance incapable de résister. Les soldats qu'ils commandaient étaient issus d'un peuple à leur gré dégénéré.
À côté de cette racaille honteuse, dont la conscience est un billet de 1000 francs, il y a la France, fière, digne et douloureuse. Toute la France et ses millions de braves gens, parmi ceux-ci est une élite rude, vivant symbole des vertus du pays, qui préférant tout à la servitude, armes à la main, a pris le maquis, n'ayant simplement pour tout ralliement qu'un seul mot, rien qu'un seul, résistance, étroitement unis comme des amis. Oui, ceux-là, ce sont de vrais, de bons et d'excellents Français.
Pierre Dac, qui parodiait depuis Londres cruellement la chanson fétiche de Maurice Chevalier pendant la Drôle de Guerre. Tout de suite, malgré le médiocre comportement de certains de ses compatriotes pendant l'occupation, il a gardé confiance. La France est par définition orientée vers la liberté, disait-il, en 40-41.
Oui, parce que c'est une analyse, là encore, qui vient de sa réflexion profonde de nature historique. Hein. Elle vient aussi des alliés qui se sont réveillés et qui se sont placés tout de suite dans le camp opposé. En particulier, m'excuse d'y revenir, mais l'Angleterre, dès le désastre de Merseyle-Kébir, qui a vu évidemment toute la France ulcérée, hein, que les Anglais aient pu couler la flotte française qui s'était réfugiée à Merseyle-Kébir, eh bien, il commence le récit de son étrange défaite par un hommage à l'Angleterre. Hein. Il est donc, c'est le pays de la liberté, des libertés. Et son engagement eh bien, se fait pour les libertés, contre toutes les barbaries et les censures.
Donc après l'invasion de la zone sud, il ne peut plus enseigner à l'université de Montpellier. Il entre dans la résistance, où il va jouer un rôle d'organisateur. Le doyen de la résistance des mouvements unis
oui.
de la région de Lyon, c'est lui. Et il paraît que ça change son arrivée, le comportement et l'organisation
il est le professeur,
de la clandestinité.
Il est le professeur. Là, et tout le monde le reconnaît comme le professeur, comme quelqu'un qui ne dissocie pas son œuvre intellectuelle, son analyse permanente du passé, du présent, avec l'action qu'il mène. Et là, il rejoint le groupe Franc-Tireur, hein, d'abord à Clermont-Ferrand, d'où il va faire des conférences à Vichy devant les officiers français sur l'Angleterre. Il faut quand même oser. Hein, il faut bien se rendre compte de... C'était déjà un acte de résistance. Et puis là, eh bien, il va organiser, il va progressivement acquérir un certain nombre de responsabilités dans la clandestinité, sous différents noms, Narbonne, et en particulier Maurice Blanchard, qui n'est pas sans rapport avec le Vercors, mais ça, c'est encore peut-être à éclairer. Et là, il va coordonner tout le secteur sud-est de la résistance. C'est donc
un rôle 44. Important. Il est arrêté, torturé. Il va être abattu le 16 juin 1944.
Oui, avec 32 autres Français.
Oui, dont il faut aussi garder le souvenir. Et par la milice.
Exactement.
La seconde vie de Marc Bloch va être assurée par son ami Lucien Febvre, qui ne cesse de parler de lui, par les historiens de votre génération qui n'ont pas cessé de le lire, mais va rebondir à partir de 1990. Un certain nombre d'établissements vont choisir son nom, à commencer par l'Université de Strasbourg. Il avait enseigné pendant 16 ans à Strasbourg au lendemain de la Première Guerre. Un reportage de 1998 qui raconte une polémique qui a duré plusieurs années quant à l'attribution du nom de Marc Bloch.
L'Université des sciences humaines de Strasbourg a désormais un nouveau nom, celui de l'historien Marc Bloch, décision du conseil d'administration, qui est loin de faire l'unanimité puisque certains vont jusqu'à parler de jour de deuil pour l'Alsace. Détail de la polémique avec Renaud Hartzer et Claude Heim.
Le choix de Marc Bloch, issu d'une famille juive d'origine alsacienne, historien, résistant, fusillé par les nazis en 1944, ne s'est pas fait sans difficulté. Il aura fallu 7 ans de discussion, 3 votes du conseil d'administration et quelques polémiques pour enfin adopter le nouveau nom. Une minorité d'opposants lui aurait préféré le nom d'Albert Schweitzer, davantage considéré comme un Alsacien de pure souche. Une association va jusqu'à évoquer aujourd'hui un lobby juif prêt à tout pour imposer le nom de Marc Bloch. Toujours est-il que la polémique aujourd'hui est close. C'est à la quasi-unanimité que l'université a choisi vendredi de se donner un nouveau nom.
Oui, en 94, il fallait obtenir la majorité des 2/3 pour que la décision soit prise de donner le nom de Marc Bloch à l'université. Cette majorité n'avait pu être obtenue. Et il faut dire que juste avant le vote avait été distribué un tract aux connotations antisémites qui avait pesé sur la non-décision. 98, tout est plié. L'adjoint à la culture de Strasbourg dit « Ce n'est pas Strasbourg qui honore le nom de Bloch, c'est Strasbourg qui est honoré par le souvenir de Marc Bloch. » Et alors, en pluie, là, les promotion d'école, les collèges, les lycées vont choisir le nom de Bloch.
Marc Bloch est une référence d'abord parce que sa vie jusqu'au sacrifice et pas seulement comme juif. Hein. C'est là aussi la preuve que les vieux démons ne sont pas morts et qu'il faut rester vigilant à tous égards. Mais pour le reste, le sacrifice de sa vie vaut très largement son souvenir, mais également l'œuvre. L'œuvre elle-même et la non-dissociation de la discipline, du savoir, de la connaissance avec le comportement quotidien.
Ce qui fait que ça touche une promo de Saint-Cyr, une promo de l'ENA en 1995 et puis des lycées, le premier étant celui de Val-de-Reuil qui organise dans les jours qui viennent un colloque écrire l'histoire consacrée à Marc Bloch. Alors, Marc Bloch est cité par les historiens. C'est comme la statue du saint patron avec des ex-voto autour, mais au-delà des historiens.
Marc Bloch est le témoin. Pourquoi les historiens d'abord, très vite.
Pourquoi les historiens le citent autant?
Eh bien, ils le citent autant parce que Marc Bloch est le témoin. Il n'est pas le seul, mais il est un des témoins majeurs des fondements même de ce qui fait notre discipline aujourd'hui. Par son approche des phénomènes collectifs, par sa méthode, par l'ensemble de l'assimilation de ce qu'il a connaître et apprendre de ses maîtres, jusqu'à leur transformation. Donc c'est d'abord un maître fondateur, une référence.
C'est quelqu'un qui démolit les hauts murs qui séparent les spécialités.
Voilà.
Les murs qui sont de plus en plus restaurés.
Il avait du reste des visions qu'il a énoncées dans les cahiers de la résistance sur ce que devait être l'enseignement à venir, qui inspire en partie un certain nombre de politiques que nous voudrions ou que nous voyons déjà mise en place. Mais c'est une œuvre qui, excusez-moi du terme aussi, je pense, confine à l'universel. Par conséquent, il ne faut pas avoir peur de l'aborder. Elle est tout à fait accessible. En édition de poche, vous trouvez le texte de L'étrange défaite, qui est quand même l'un des premiers et rares textes aussi complets pour analyser les causes de la défaite de 1940 et par conséquent l'état de la France pendant tout le siècle. C'est un livre tout à fait accessible et remarquable. Et puis le reste de son œuvre, vous savez, il y a évidemment le caractère savant avec des notes qui permettent de vérifier et donc de voir si ce qu'il dit est véritable ou pas véritable, mais en réalité, si l'on fait abstraction de ce qu'on appelle nous l'appareil critique, on peut tout à fait aborder la société féodale ou les rois thaumaturges sans aucun problème.
Je n'imagine pas pour qui écrit de plus belle louange que de savoir parler du même ton aux doctes et aux écoliers. On appelle ça le public lettré de masse, c'est-à-dire le public de France Inter.
Non, nos concitoyens, pas de masse, le public, nos concitoyens. Je crois que Marc Bloch, eh bien, pour moi, je suis historien, je le revendique, je dirais, comme modèle d'historien, quitte à le dépasser, du reste lui-même aspirait à ce que ses élèves et la suite le dépassent. Mais en réalité, le modèle fondamental, c'est celui d'être, sans doute, pour le XXe siècle, l'un des premiers de nos concitoyens.
C'est au vaste public de dire si l'histoire a une utilité, dit papa, demandait son fils Étienne à Marc Bloch en 1940. À quoi ça sert l'histoire? L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, la préparation Camille Poux, Jalaguier, Frédéric Martin, Franck Olivard, à la technique Nicolas Slimani et Patrick Henry. Demain, nazisme et antiquité.